Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct des Kinshasa, il est très précisément 18h, édition spéciale 30 juin 2021 sur Radio Okapi. C'est aujourd'hui la journée anniversaire de l'indépendance de la RDC. Pour l'occasion, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa affirme que l'indépendance économique du pays n'est pas encore conquise car fortement dépendante de l'extérieur. Pour sa part, Grégoire Katende, ancien étudiant de l'ISC Gombe en 1960, ajoute que la gouvernance postcoloniale est caractérisé par un manque de leadership. Il est l'invité de Radio Okapi. Les FARDC augmentent leur capacité opérationnelle en Ituri et au Nord Kivu. Bilan à mi-parcours dressé hier à Goma lors d'un point de presse conjoint animé entre les FARDC, la police nationale et le gouvernement congolais. Dans la topo, le ministre provincial de la Santé annonce pour le 2 juillet prochain le début de la vaccination contre le coronavirus. Annonce faite hier mardi après-midi lors de la réception des 1000 doses de vaccins. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. L'indépendance économique de la RDC n'est pas encore conquise. 61 ans après, l'économie congolaise est fortement dépendante de l'extérieur. Déclaration faite ce mercredi par le ministre du Commerce extérieur à l'occasion de la journée anniversaire de l'indépendance du pays. Jean-Lucien Boussa explique, je cite, que notre vrai challenge est la replacer au cœur de la politique et en contrôler les leviers. Il estime que l'impulsion qu'a amené le président Félix Tshisekedi Tshilombo à travers un leadership qui lutte contre la corruption et les antivaleurs ainsi qu'une fiscalité incitative notamment permettront au pays de gagner son indépendance économique. On l'écoute au micro d'Alain Irung Mouchige.
La première question à laquelle on doit répondre, elle commence à trouver sa réponse, c'est le problème de la vision politique du leadership au pouvoir, de sa détermination à placer l'économie congolaise au cœur de l'action politique. Le rôle de l'État dans l'amélioration du climat des affaires. Ce qui crée la richesse sont des privés, mais l'État a un rôle, il crée les conditions d'externalité positive. Mais en même temps, l'État doit améliorer le climat d'affaires qui permet de faire de la RDC la destination des investissements et des investisseurs. Et enfin, il faut une fiscalité incitative, il faut un code d'investissement incitatif à comparer à la manière dont les fiscalités sont appliquées dans l'un ou l'autre pays d'Afrique ou d'ailleurs, que nous ayons une fiscalité qui soit plus attractive que dans les autres pays concurrents. Et ça va permettre donc et aux Congolais qui ont envie d'investir dans le pays et aux investisseurs de partout dans le monde qui voudraient bien choisir le lieu où destiner leurs investissements, de privilégier la République démocratique du Congo. Tout ceci considérant que la paix règne dans le pays.
61 ans d'indépendance de la RDC, le mouvement dénommé « Le Congo mérite mieux » dresse un diagnostic alarmant de la situation du pays et propose des pistes et des solutions pour freiner la descente aux enfers, d'après sa présidente. Selon Madame Philo Makiese, la RDC est actuellement dans une situation économique, politique, sociale et sécuritaire qui met les populations face à plus de problèmes que de solutions. Elle propose en définitive des voies de sortie. Écoutez quelques-unes de ces solutions dans cet extrait proposé par Peleki Pelamondo.
Je pense que le Congo aujourd'hui a besoin d'une nouvelle intelligence. Cela suppose que nous ayons une vision pour ce géant d'Afrique centrale. Nous développions des stratégies, mais aussi des objectifs dignes de notre pays. Alors j'invite tous les Congolais à se rendre compte de l'urgence de la situation et de la nécessité d'agir pour sauver le Congo. Comme piste de solution, d'abord sur le plan politique, le Congo doit se doter des moyens d'un État qui lui permette d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. National, se doter d'une armée capable de défendre chaque mètre carré de notre territoire national afin de dissuader toute agression venant de l'extérieur tout comme en interne, mais aussi asseoir une justice forte et juste qui garantisse le respect de la constitution et des lois du pays et au niveau local assurer une mise en place effective de la décentralisation afin de permettre à nos entités locales d'avoir des moyens nécessaires pour leur développement. Il y a aussi sur le plan diplomatique quelques actions à mener telles que revoir les relations avec avec nos voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Mais il faudra aussi imprimer un leadership fort dans la sous-région, digne de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo, donc notre pays.
Et puis, la Gécamines, qui était à l'époque la plus grande entreprise minière de la RDC, bat de l'aile. 61 ans après l'indépendance du pays, elle fait face à plusieurs défis pour son développement intégral. La plupart de ses anciens gisements sont entre les mains des entreprises minières privées. À Lubumbashi, une correspondance de Jean Gandou.
La Gécamines était présentée autrefois comme le fleuron de l'économie congolaise avec une participation de l'ordre de 70% au budget national il y a plusieurs années. Ses gisements étaient parsemés à travers plusieurs coins de la province du Katanga et sa production était reluisante. C'est ainsi qu'en 1986, elle avait réalisé son record de production avec 476 000 tonnes de cuivre, 14 500 tonnes de cobalt et 64 000 tonnes de zinc lingot pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre d'un milliard de dollars américains. Ce temps rose était suivi dès 1987 d'une chute qui s'accélérera en 1990 suite à la conjonction de plusieurs événements dont l'effondrement de la mine souterraine de Kamoto à Kolwezi, les troubles sociopolitiques qui avaient émaillé le pays au début des années 90 et l'arrêt brutal de financement des bailleurs de fonds. Pour l'heure, la Gécamines a cédé certains gisements à d'autres investisseurs et les agents ont dans un passé récent assisté à la détérioration de leurs conditions socio-économiques. Bref, en 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, pour plusieurs analystes et anciens de cette société minière, la Gécamines n'est plus ce qu'elle était malgré les efforts qui sont fournis par les différents comités de gestion qui se sont succédés. Toutefois, estime-t-il, l'espoir est permis. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Journée anniversaire de l'indépendance de la RDC aujourd'hui, le parti politique de l'unité nationale, Pouna, appelle les autorités du pays à élever Jean Bolikango au rang de héros national, à l'instar de Patrice Emery Lumumba. C'est confié à la presse ce mercredi à Kinshasa. Le président national de ce parti politique a plaidé également pour l'érection d'un monument en mémoire de l'illustre disparu. Élisée Boukoumouana le dit à Paul Matendo.
Bolikango, c'est celui qui a été le socle et c'est lui. Même pendant la table ronde, et c'est lui qui a haussé le temps afin que, avant de continuer les travaux, il fallait que Lumumba soit présent à la table ronde. Les travaux étaient arrêtés et on a amené dans un avion seul Emery Patrice Lumumba. Donc c'est comme ça que nous avons cette élite de chercher à réhabiliter les noms des pionniers de l'indépendance. Jean Bolikango à Kolokaka. Et nous sommes dans cette élite-là au niveau du gouvernement de la République, au niveau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'on puisse ériger aussi les monuments comme on l'a fait pour les uns et les autres.
Ce mercredi 30 juin 2021, 5 ans se sont déjà écoulés depuis la disparition de l'abbé Apollinaire Malumalu Muolongo, ancien président de la Commission électorale indépendante CI entre 2003 et 2011, puis de la Commission électorale nationale indépendante CENI de 2013 à 2015. Que retenir de l'œuvre de ce prêtre du diocèse de Beni-Boutembo, Nord-Kivu ? La réponse avec le professeur Roger Kasereka dans cet extrait choisi par Alain Irung-Mouchige.
Au service de la population, il fut initiateur et animateur de plusieurs associations paysannes et de celles de défense de, et de promotion des droits humains. Acteur et fatigable de développement, il s'était entièrement impliqué dans la conception et surtout dans la recherche de voies et moyens pour réaliser concrètement des projets à grand impact sur l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens congolais. Homme de paix, président de la société civile du Grand Nord, il s'était investi à fond dans les efforts déployés par les autorités congolaises de l'époque en vue de mettre un terme au conflit armées et au risque d'implosion de notre pays. S'inscrit ici son activisme au sein du Symposium international pour la paix en Afrique, de la table ronde sur le phénomène Maïmaï, de la conférence sur la sécurité, la paix et le développement au nord et au sud de Kivu, du programme Amanileo, du programme Starek, des négociations de paix lors des guerres successives à l'est de la République démocratique du Congo. Et je passe. Président de la Commission électorale indépendante CEI de juillet 2003 à mars 2011, puis de la Commission électorale nationale indépendante CENI de juillet 2013 à octobre 2015. Il est aussi le fondateur et promoteur de l'École de formation électorale en Afrique centrale, FEAC.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Nord Kivu, plusieurs dizaines de rebelles tués, d'autres capturés ou arrêtés, beaucoup d'armes et effets de guerre récupérés ainsi que la reprise de plusieurs sanctuaires des rebelles. Bilan à mi-parcours des opérations militaires dressées conjointement par le gouverneur du Nord Kivu et le porte-parole des FARDC, c'était Thierry Goma. C'était en présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Des précisions avec Gabriel Ouaménia.
Je parle d'une unité qu'on appelle Léopard, qui est arrivée à Bounia. Et vous verrez ce que cette unité est capable de faire à Bounia. Nous avons des unités, présentement, des régiments autour de 1800 personnes qui sont en formation à Kitona et à Kamina. Le régiment Léopard a fini son entraînement, sa mise en condition à Lukusa et Kisangani. Aujourd'hui, nous avons également ce que nous appelons unité canine, une unité capable de venir ici, renifler un objet et d'identifier que ça, c'est un engin explosif, une bombe artisanale, et ces bombes sont fabriquées dans la maison juste à côté ici. Et ça, le chien avec son collègue homme vont ensemble jusque là où ça se fabrique, le chien entre, déniche l'endroit et tout de suite, le dispositif ennemi est détruit. Tout cela, c'est pour renforcer la capacité opérationnelle, la combativité des unités de forces armées au profit de la sécurité pour vous tous et pour votre pays. Parmi les unités que vous allez recevoir, il y a également une unité spécialisée dans le combat de la jungle. Cette unité-là, elle opère avec un matériel hyper moderne. La sensibilité, la température, la chaleur humaine, l'objectif est atteint.
C'était le porte-parole des FARDC, le général Kasunga, au micro de Gabriel Ouaménia. Nord Kivu, encore le maire de Beni a levé hier mardi la mesure portant fermeture des écoles, des églises et des marchés. Cette mesure avait été prise au lendemain des deux attaques à la bombe artisanale à la paroisse catholique de Butsili et au quartier Mabakanga. Des précisions à Beni avec André Kitenge.
La levée de cette mesure intervient après une opération de fouilles effectuée par les services de sécurité avec à la tête le maire de la ville, hier mardi dans tous les marchés de la ville de Beni. Objectif, s'assurer qu'il n'y a pas d'engins explosifs et autres objets piégés afin de rassurer la population. Pour le maire, aucun engin suspect n'a été trouvé dans ces différents lieux. Toutefois, la mesure du couvre-feu avancée d'une heure, soit de 21h à 5h du matin, reste maintenue. Et lors de son passage dans les différents marchés de la ville, l'autorité urbaine n'a cessé d'appeler la population, particulièrement les vendeuses et vendeurs, à la vigilance. Il leur a également demandé de collaborer avec les forces de sécurité et de défense afin de mettre fin aux menaces terroristes et à éradiquer l'insécurité grandissante dans la région. Rappelons que l'autorité urbaine avait pris cette mesure préventive à la suite des deux attaques à la bombe artisanale dans une église catholique et dans un quartier trop fréquenté de la ville le dimanche 27 juin. Des attaques qui ont fait un mort et plusieurs blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Santé à présent. Dans la Tchopo, le ministre provincial de la Santé publique annonce pour le 2 juillet prochain le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Luc Alungouli l'a dit hier mardi après-midi lors de la réception de 1000 doses de vaccins contre cette pandémie à Kisangani, Jacques Mkonkole.
Deux sites sont actuellement retenus pour la vaccination des personnes intéressées. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kisangani-Makiso et l'hôpital du Cinquantenaire. Tout en précisant que le vaccin n'est pas obligatoire, le ministre provincial de la Santé indique que les premiers concernés sont les prestataires de première ligne, à savoir le personnel soignant. Les personnes âgées de plus de 55 ans et les volontaires sont également attendus à cette vaccination contre la COVID-19. Dans un entretien avec Radio Okapi, Luc Alungouli a fait savoir par ailleurs que 90 personnes ont aussi souscrit à cette vaccination. Une occasion pour lui d'appeler les Tchopolis en général et le personnel soignant en particulier à se faire vacciner puisque selon lui, ce vaccin est avantageux pour la santé.
Pour ceux qui sont confirmés, les prestataires de première ligne ne doivent pas aller se faire vacciner au décès de la maladie.
Signalons que la province de la Tchopo compte actuellement 465 cas du coronavirus, dont 13 décès. En vue de se protéger contre cette pandémie, le ministre Luc Alungouli appelle la population au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités du pays. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mercredi à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, d'une formation de 41 médecins et infirmiers superviseurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils feront partie des équipes d'intervention rapide. rapide de 9 zones de santé de ces deux provinces. Le recyclage de 3 jours porte notamment sur les exercices de la simulation organisée par l'OMS en vue de prévenir les épidémies de toute forme. Des précisions avec le ministre provincial de la Santé, Cosmos Kusimwa Bichicha, au micro de Michel Thirimoy Milouanois.
Cette formation va permettre à nos deux provinces, le Nord et le Sud Kivu, d'avoir des équipes d'intervention rapide, évidemment formées et équipées, et capables de répondre aux urgences de la santé publique dans nos deux provinces. Cette formation, appuyée par l'OMS, va permettre à nos deux provinces de répondre valablement aux futures urgences. Les urgences le plus connues aujourd'hui, pas seulement sur le plan de la RDC, mais mondiale, aujourd'hui la pandémie COVID-19 fait partie des urgences de la santé publique. Nos deux provinces ont connu Ebola, qui était aussi des urgences de santé publique. En dehors de cela, il y a d'autres épidémies qui sont devenues presque endémiques dans les deux provinces. En fait, je pense que pour l'instant, les équipes qui seront mises en place en termes d'équipes d'intervention rapide face à ces urgences, ces équipes vont permettre effectivement à nos deux provinces de protéger la population contre ces urgences.
Actualité internationale.
Première réponse du gouvernement éthiopien après la reprise du Tigré par ses forces de défense à Addis Abeba. Le premier ministre Abiy Ahmed et son gouvernement minimisent les pertes. Selon lui, ses troupes ont quitté le Tigré de sa propre volonté pour s'occuper de nouvelles priorités. Le ministre algérien de la défense, Aïmene, a été nommé ce mercredi premier ministre en remplacement d'Abdelaziz Djellal à la suite des élections législatives anticipée organisée le 12 juin selon un communiqué de la présidence.
L'invité.
Notre invité, c'est Grégoire Katende. C'est étudiant de la première promotion de l'ISC Gombe, témoin de l'indépendance du pays le 30 juin 1960, affirme que la gouvernance post-coloniale de la RDC est caractérisée par un manque de leadership et l'économie n'a jamais connu son indépendance. Il relate l'histoire du pays sous la colonisation et après l'indépendance. Il s'entretient à Butembo avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Grégoire Katende, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 73 ans aujourd'hui, vous avez vécu la proclamation de l'indépendance de la RDC. Parlez-nous un peu de la vie du peuple congolais pendant l'époque coloniale.
À l'époque coloniale, c'est sûr qu'on avait une vie qui était décente. Chacun mangeait à sa faim, mais sinon, exploité par les Blancs, on trouvait que c'était la vie normal. Mais quand le général de Gaulle a prononcé son discours de 1944, nous sommes au Congo, Brazzaville en face, et Charles de Gaulle a prévenu les Blancs, les colons de l'époque, que le moment était venu pour l'homme noir de se libérer, de vivre en liberté. On ne pouvait pas prendre le noir éternellement comme étant esclave. En ce moment-là, nous avons pris conscience que réellement, les Blancs nous ont longtemps exploités. Maintenant, les Belges n'avaient pas préparé les cadres qui pouvaient prendre leur propre relève. On n'avait pas les leaders, surtout nous les Congolais, qui pouvaient nous dire comment on peut se libérer. Et les Français, les Anglais ont été prudents pour former les cadres de leur colonie, comme les Britanniques avec Jomo Kenyatta, de Nyerere, de Kwame Nkrumah. On a vu les Français qui ont formé Senghor, Modibo Keïta, voire même les Guinéens, Sékou Touré.
Alors, cours de la table ronde, il y a José Filéo qui propose la date de l'indépendance, le 30 juin, parce que là, ils sont en janvier ou février, j'imagine. Maintenant, quand les Congolais avaient su qu'à telle date, nous serons indépendants, c'était quoi l'ambiance dans les différents quartiers, différentes communes à Léopoldville où vous étiez?
Les Congolais ont un esprit de division, un démon. Même jusqu'aujourd'hui, ce démon-là continue à nous hanter. Je dis qu'à Bruxelles, sur place, les Congolais ne s'étaient pas entendus. Il y avait le Mumba et Kasavubu, leur point de vue ne pouvait pas converger.
Vous avez tellement vanté l'administration coloniale par rapport à la vie que vous meniez à l'époque. S'il faut comparer avec l'administration actuelle, qu'est-ce que vous reprocherez à la gouvernance actuelle?
Le manque de leadership. On a spolié l'enseignement. Actuellement, vous avez un enfant qui est difficile de formuler une phrase en français. Vous avez des enfants qui terminent l'université, qui ne savent pas élaborer leur propre travail de mémoire.
Donc, sur le plan éducatif, actuellement, rien n'est pas. Et sur le plan sécuritaire.
Le désordre commence avec nous-mêmes. Vous savez, la rébellion de 1961-62, 63 de Moulélé. Moulélé était ministre de l'éducation nationale. Il s'était révolté pour avoir tué Lumumba et il a monté sa rébellion à Kikwit. Voilà comment les choses commencent à s'empirer. Jusqu'aujourd'hui, l'économie est par terre jusqu'aujourd'hui.
Alors, pour terminer, une question d'actualité. Il y a des reliques de Lumumba, notamment Sadan, qui devraient être restituées au pays. Quel commentaire vous avez par rapport à ça?
C'est une très bonne chose parce que Lumumba n'a pas laissé quelque chose de son corps. On a jeté son corps dans la sud sulfurique. Donc, la relique, là, c'est tout un symbole de la vie, non pas seulement de Lumumba comme individu, mais de l'indépendance.
Même s'il faut dépenser des millions pour en avoir.
Non, Lumumba, c'est quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance économique du Congo. Et s'il revenait et qu'il trouvait qu'on a fait des dépenses gastronomiques pour Sadan, je crois que vous ne serez pas tranquille avec lui.
Monsieur Katende, nous vous disons merci de nous avoir accordé de votre temps, votre disponibilité pour échanger sur l'histoire du pays.
Merci beaucoup de m'avoir rendu visite.
C'était l'invité de Radio Okapi ce 30 juin 2021, Grégoire Katende, cet ancien étudiant de la première promotion de l'ISC Gombe, témoin de l'indépendance du pays le 30 juin 1960. Il était interrogé à Boutembo par Sadiki Aboubakar. C'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Noël Alouzitou, Alain Rongmouchige et Pélékipé Lamondo qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.